8h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et Sébastien Krebs pour le rappel des titres.
Le manque de masques et de tests, le gouvernement a-t-il suffisamment préparé, anticipé l'épidémie? Le Premier ministre et le ministre de la Santé sont sous le feu des questions ce soir des députés. Première audition de la mission d'information parlementaire par visioconférence. Il est bien légitime que le gouvernement puisse être contrôlé, estime Édouard Philippe, qui précise à l'instant que le déconfinement à venir ne se fera probablement pas en une fois. Et pas pour tout le monde, on y revient bien sûr dans le journal de 19h. Pas de départ en vacances scolaires, même si elles commencent ce vendredi soir. Christophe Castaner annonce des contrôles renforcés. On ne bouge pas pendant le confinement. Un salarié du privé sur 5 désormais au chômage partiel. Plus de 3,5 millions de personnes, 337 000 entreprises concernées. Cela pourrait coûter 11 milliards d'euros, soit beaucoup plus qu'anticipé. Le marché automobile à l'arrêt quasi total, il a chuté de 72% en mars. Les constructeurs s'attendent à une baisse de 20% sur l'année. Le tournoi de tennis de Wimbledon n'aura pas lieu cette année. Annulation confirmée aujourd'hui pour ce rendez-vous mythique sur gazon en Grande-Bretagne. À Paris, la Foire du Trône est elle aussi annulée. Elle devait se tenir du 27 mars au 24 mai. Elle accueille près de 3 millions de visiteurs chaque année. Les forains qui sont déjà installés sur place ont l'autorisation de rester jusqu'en juin, mais sans bien sûr faire tourner leurs attractions.
Et on vous retrouve Sébastien Krebs à 19h pour un nouveau journal complet. Anissa, du côté du temps, ça donne pas terrible dans le sud-ouest pour commencer.
Oui, c'est ça. Effectivement, Nathalie, sur les Pyrénées-Atlantiques, nous aurons des averses demain matin, un ciel très nuageux. Sur le Roussillon non plus, c'est pas top. Sur le Haut-Languedoc, on aura des averses avec des nuages assez épais. Et puis sur l'Auvergne, le Limousin, la vallée du Rhône, là aussi le ciel sera couvert, mais il laissera passer le soleil de temps en temps. Vous l'avez compris, c'est une journée assez mitigée demain avec des températures qui seront quasiment les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des gelées matinales, moins 4 à 9 degrés. Vous avez vu l'amplitude hein, le matin, moins 4 à Épinal, 9 pour Perpignan et 2 pour Paris. Et puis au meilleur de la journée, dans l'après-midi, c'est assez stationnaire, 11 à 17, 13 à Paris, 15 à Montpellier et 17 pour Perpignan. Et puis bonne nouvelle, samedi et dimanche, nous aurons deux très belles journées.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix tous les soirs. On prend du recul sur l'info du jour avec nos grandes voix qui vous répondent. Hein, d'ailleurs, vous pouvez les interpeller et participer à ce débat jusqu'à 19h avec autour de vous Nathalie Lévy. À distance, Mickaël Darmon, éditorialiste politique à Europe 1. Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Et Xavier Yvon qui nous rejoint ce soir, oui. Le correspondant de la station aux États-Unis. Et vous êtes en direct de New York, Xavier.
Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Xavier.
Bonsoir,
on va se donner.
Bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous.
Bonsoir, bienvenue les grandes voix. Toujours un plaisir de vous retrouver. On va commencer par là ce qui se joue en ce moment même, à l'heure où nous parlons. Et donc, Mickaël Darmon, je vais commencer avec vous parce que une mission d'information a démarré à l'Assemblée nationale. Une mission d'information parlementaire précisément. Édouard Philippe et Olivier Véran sont auditionnés à l'heure où l'on se parle pour expliquer, eh bien, les mesures prises contre la propagation du Covid-19. Ça s'appelle une opération transparence. Richard Ferrand la préside, très proche d'Emmanuel Macron. C'est un marcheur de la première heure. Que se passe-t-il dans cette mission d'information parlementaire, Mickaël Darmon, pour que nos auditeurs comprennent bien ce qui s'y joue?
Alors, tout d'abord, elle vient montrer que le Parlement continue de fonctionner, continue d'exercer son rôle de contrôle de l'exécutif dans le cadre de la séparation des pouvoirs, ce qui est quand même l'alpha et l'oméga d'une vie démocratique. Et il y a une intention, bien évidemment, à la fois du gouvernement et de l'Assemblée, de montrer que malgré la période que l'on vit, eh bien, le fonctionnement de la démocratie, lui, n'est pas altéré et le contrôle, la fonction de contrôle des députés sur l'exécutif s'exerce. Alors, bien évidemment, ça prend, c'est un peu Canada Dry, hein, ça a l'allure, oui, d'une commission d'enquête. Oui. Ça a la tonalité d'une commission d'enquête, mais ça n'est pas une commission d'enquête, c'est une mission d'information parlementaire à l'initiative de Richard Ferrand, bien évidemment proche d'Emmanuel Macron, président de l'Assemblée nationale, proche, on va dire, membre de la majorité, et ça a vocation à continuer, comme vous le disiez, l'opération transparence. Là où ça va être plus sensible, c'est qu'il y a une volonté que cette mission d'information parlementaire puisse se commuer en commission d'enquête parlementaire. Et là, l'opposition va attendre au tournant parce que, bien évidemment, ça doit être dans un autre cadre, avec une autre composition et un autre type de question. À l'instant même, juste pour terminer là-dessus, pour donner l'information qui vient d'être donnée par Édouard Philippe, il a annoncé que le confinement, ne se fera pas pour tout le monde.
Le déconfinement,
pas pour tout le monde, pas en même temps et pas, bien évidemment, tout de suite.
Voilà, c'est sans doute l'information de cette soirée. Effectivement, on va attendre le docteur Jimmy Mohamed qui va réagir là-dessus et nous expliquer ce que ça peut vouloir dire, ce déconfinement régionalisé, sauf si l'un d'entre vous a déjà des éléments à nous formuler là-dessus, mais effectivement, il ne sera pas général et absolu, une fois partout et pour tout le monde. C'est ce qu'a dit le Premier ministre Édouard Philippe. On va y revenir donc très précisément pour vous expliquer au mieux ce que cela signifie dans quelques instants. On va traverser l'Atlantique et vous accueillir, Xavier Yvon. Merci d'être avec nous ce soir, d'autant que la situation chez vous est évidemment très inquiétante. On parle désormais de 100 000 à 240 000 morts selon les projections révélées par la Maison Blanche. On parle donc de cataclysme sanitaire. Ça y est, les mots sont là.
Oui, ben on l'a vu dans l'attitude de Donald Trump hier. Vous savez, Donald Trump, il a profité de cette crise du coronavirus pour faire des points quotidiens et faire une espèce de show télévisé de ses briefings quotidiens. Sauf qu'hier, on a vu un Donald Trump complètement différent et qui a changé de ton. Il était très grave, un peu comme sonné. Il a beaucoup moins parlé que d'habitude. Et effectivement, il a prévenu les Américains. Attention, les deux semaines qui arrivent vont être très très dures, très très douloureuses. La Maison Blanche a révélé un graphique qui montre les projections et qui montre que si les mesures de distanciation sociale, parce qu'on ne parle pas de confinement ici puisque tout le monde n'est pas confiné, tous les États n'ont pas pris des mesures de confinement, donc si les mesures de distanciation sociale qui sont préconisées et pas imposées encore par le gouvernement fédéral, si elles sont respectées, on aura entre au mieux 100 000 et 240 000 morts, ce qui est énorme évidemment, à comparer avec les 2 millions potentiels si rien n'avait été fait. Mais vous voyez, le ton a complètement changé ici, et puis surtout, tous les yeux pour l'instant sont rivés sur la ville où je me trouve, sur New York, où la situation est de pire en pire. En ce moment même, vous avez Édouard Philippe qui parle, moi j'ai le gouverneur Andrew Cuomo, qui est le gouverneur de New York, qui parle comme tous les jours, qui donne les derniers chiffres et les dernières projections, et qui dit que le pic de l'épidémie ici à New York sera plutôt fin avril, alors qu'on a déjà des rapports qui nous montrent que les hôpitaux sont surchargés. On a même construit un hôpital de campagne en plein Central Park.
Central Park, on en parlait effectivement hier avec Ève Roger, l'image édifiante. Donc le pire est vraiment à venir. Je vous laisse vous reprendre 2-3 petites secondes et je reviens vers vous, Xavier Yvon et Emmanuel Duteil aussi. Je voudrais donner la parole à Jimmy Mohamed, le docteur Europe 1. Bonsoir docteur, merci de nous répondre là ce soir un peu à la volée, mais cela s'impose quand on entend Édouard Philippe en mission d'information nous dire voilà, que le déconfinement probablement ne se fera pas de façon totale en une seule fois, qu'il ne sera donc pas général et absolu, on l'imaginait assez facilement. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire selon vous ?
Alors bonsoir Nathalie, c'est vrai qu'il était illusoire de croire que nous allions pouvoir tous être déconfinés, repartir à nos vies normales de façon équitable et égale dans toute la France. La crainte, elle est simple, c'est qu'à partir du moment où les gens vont retourner en collectivité, il y aura une grande partie de la population qui n'aura pas eu encore la maladie. Et le problème, c'est que lorsqu'on parle de pic épidémique, en règle générale, notamment pour la grippe, une fois qu'on a atteint le pic, on a une décroissance rapide de la maladie. Or, pour le coronavirus, les choses semblent être un peu différentes. On aura un pic peut-être annoncé d'ici 8 jours, et puis une phase de plateau avec des gens qui resteront malades. Et la crainte, c'est qu'une fois que les gens retournent à la civilisation, à la vie collective, d'autres foyers se mettent à flamber, notamment l'ouest de la France qui est plutôt épargné, le sud aussi, et qui entraîne secondairement une nouvelle vague avec de nouvelles contagions. Donc l'idée, ça va être peut-être un déconfinement à la carte. Est-ce que les sérologies qu'on attend avec impatience vont être un outil du déconfinement? C'est-à-dire que demain, vous faites la sérologie, vous êtes positif, c'est-à-dire que vous avez eu le coronavirus, donc vous n'êtes pas à risque d'attraper la maladie et de ne pas la transmettre aux autres. Et à ce moment-là, est-ce que vous aurez une sorte de laisser-passer? Est-ce qu'on va laisser confiner des personnes fragiles pour éviter justement qu'elles ne soient malades et qu'elles aggravent la situation, notamment dans les hôpitaux? Pour l'instant, il faut dire aux gens qu'on est au jour le jour et que c'est au gré de l'épidémie et au gré de l'évolution qu'on pourra prendre des mesures. Il est impossible d'annoncer aujourd'hui exactement le scénario possible.
Bien sûr. Et je ne vais pas vous demander de vous avancer sur une date, mais quand on nous parle encore du 4 mai pour une rentrée scolaire, et si on parle de déconfinement régional, en tout cas pas général, ça semble quand même, cette hypothèse-là, s'éloigner, non ?
Je pense que c'est effectivement illusoire. D'ailleurs, le gouvernement semble plancher peut-être pour reporter des choses d'ici le mois de septembre. C'est en cours de discussion. Ce qu'on peut dire aux gens, c'est que si, par exemple, on atteint un pic dans 10 jours, c'est ce qui est estimé, 8 à 9 jours, c'est-à-dire qu'on aura le nombre de cas maximum. À ça, il faut rajouter une période d'incubation qui va de 14 jours pour les derniers malades. Donc on fait ces 10 jours plus ces 14 jours, ça nous emmène d'emblée fin avril, sans qu'on ait franchement une bouffée d'oxygène extraordinaire. Et donc probablement que le confinement va durer au mois de mai, peut-être un peu plus, et ça va dépendre aussi de l'évolution des autres régions. En Normandie, ils sont plutôt tranquilles, mais s'ils se mettent à avoir des flambées, notamment au moment des départs en vacances, ça va être peut-être une étape clé de l'épidémie. Si les gens, les Parisiens, décident en Ile-de-France, c'est pas pour les stigmatiser, mais d'aller dans les campagnes, se dire, oh, allez, on va partir un petit peu en vacances, ils vont peut-être disséminer la maladie, et 15 jours, 3 semaines après, on peut avoir une nouvelle flambée. Donc il y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas, mais effectivement, le 4 mai, pour la rentrée scolaire, ça semble illusoire, même si lorsqu'on parle de déconfinement et lorsqu'on parle de reprise scolaire, c'est pas tant que les enfants soient de très grands vecteurs de la maladie. On s'est rendu compte que les enfants tombent facilement malades, qu'ils ont un système immunitaire un peu plus compétent que le nôtre et que finalement ils guérissent un peu plus vite, même si on a eu quelques drames. Ils sont pas très vecteurs de la maladie, mais lorsque les écoles sont ouvertes, on a de la collectivité, on reprend les transports en commun, on reprend une vie un peu normale. Et l'enjeu, il est là, c'est que finalement, comme nous repartions tous au travail, à ce moment-là, les écoles seraient un vecteur de la maladie au travers des parents, des élèves, des nounous. Et donc le 4 mai, à mon avis, on peut s'asseoir dessus.
On reste prudent, mais effectivement, ça semble, vous l'avez dit, assez illusoire, en tout cas assez peu probable à ce stade. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, de nous avoir éclairé là tout de suite sur les propos d'Edouard Philippe il y a quelques instants à peine. Action-réaction sur Europe 1, vous l'avez compris, l'analyse donc immédiatement. Et elle se poursuit, cette analyse et cette pédagogie, avec les grandes voix. Xavier Yvon est à New York, Emmanuel Duteil sur ce chômage partiel avec des chiffres qui donnent le tournis, et Michaël Darmon pour la politique. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. On revient sur toute l'actualité du jour. On prend du recul avec nos grandes voix qui sont autour de vous. Nathalie Lévy à distance, Michaël Darmon, éditorialiste politique, Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, et Xavier Yvon en direct de New York. C'est notre correspondant aux États-Unis. Vous pouvez bien sûr réagir et venir nous rejoindre au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Oui, l'information de cette soirée, c'est Edouard Philippe qui nous la livre depuis l'Assemblée nationale. La fin du confinement ne se fera sans doute pas en une seule fois partout et pour tout le monde. On a entendu le docteur Jimmy Mohamed nous expliquer effectivement que la date du 4 mai s'éloignait à grands pas pour la rentrée scolaire. On y revient à 19h. Je voudrais avec vous, Emmanuel Duteil, bonsoir, aller sur un chiffre qui donne un peu le tournis. Aujourd'hui, la ministre du Travail, c'est elle, hein, Muriel Pénicaud, qui l'a annoncé aujourd'hui. Plus de 3,5 millions de salariés sont à l'heure actuelle au chômage partiel. Hein.
Ouais, ce qui est impressionnant, c'est quand on le compare au nombre de salariés du secteur privé, c'est-à-dire qu'un salarié sur cinq du secteur privé est au chômage partiel. Hein, vous l'avez dit, 3,6 millions de personnes au chômage partiel, près de 400 000 entreprises qui ont donc mis les collaborateurs au chômage partiel. Ce qui est assez impressionnant, c'est l'évolution que l'on peut noter, hein, puisqu'on était à 2,2 millions vendredi dernier. Vous imaginez, on est mercredi soir, la rapidité avec laquelle ça va. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus d'entreprises ont fini de pouvoir utiliser les collaborateurs en télétravail. Il y a plein d'entreprises où quand vous n'avez plus de contrat, bah vous n'allez pas mettre vos gens en télétravail pour le plaisir. Et on peut penser que ça va encore continuer de s'accélérer là avec l'arrivée du mois d'avril. Alors bien évidemment, ça coûte une fortune. Hein. Il pronostique déjà le gouvernement le chiffre de 11 milliards d'euros là sur les quelques mois. On était sur 8 milliards et demi,
ouais, c'est ça, avait été provisionné.
Donc vous voyez bien que, alors dès le démarrage, hein, ils avaient dit que ça ne suffirait sûrement pas, mais je pense que même eux sont un petit peu impressionnés par la rapidité avec laquelle ça va.
Emmanuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les demandes de chômage partiel sont acceptées en quelque sorte?
Non, ça ne veut pas dire. Non, ça ne veut pas dire que toutes les demandes sont acceptées. Il y a beaucoup justement de petits entrepreneurs qui sont dans l'inquiétude de se dire est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas. Alors, je les invite à aller voir sur le site du ministère du Travail où il y a un tableau qui est très très bien fait pour voir si on peut être dedans. Mais si on a encore un doute, et c'est là le gros problème, on essaye d'appeler les services de l'État. Vous imaginez bien qu'avec ces chiffres, les services de l'État, ce qu'on appelle les directs, hein, les directions de l'emploi en région, elles sont, mais débordées, le mot n'est même pas suffisant. Donc, je vous rappelle, hein, ce qui était venu annoncer Muriel Pénicaud sur Europe 1, c'était, je crois, mercredi matin dernier. Si vous faites votre demande de chômage partiel, que vous n'avez pas de réponse dans les 48 heures et que vous pensez légitimement avoir le droit au chômage partiel, eh bien, vous pouvez y aller, vous pouvez mettre vos collaborateurs en chômage partiel et ils seront indemnisés. Je rappelle, le chômage partiel, 84% du salaire net, 70% du salaire brut.
Alors, je crois qu'il y a une question pour vous. Alain nous appelle des Yvelines. Bonsoir Alain. Bienvenue sur Europe 1 au 39-21. On vous écoute Alain.
Alors moi, je m'interroge déjà sur... on finira bien par sortir de cette crise qui, à mon avis, ressemble quand même davantage à soit 14-18, soit 40-45, beaucoup plus qu'à 2008 ou 1929. Alors l'après-guerre, première guerre mal gérée, débouche sur la crise de 29 et le fascisme, et 40-45 bien géré, le plan Marshall permet aux économies occidentales de redémarrer. Donc ma question c'est comment voyez-vous et quelles seraient les conditions d'une reprise et d'une relance qui permettrait de remettre progressivement tout le monde au travail et sortir de ce chômage de masse que vous venez d'évoquer.
Alors, Emmanuel Dutheil, en quelques mots.
Alors, effectivement, je pense que l'image que vous prenez du plan Marshall, elle est très bonne, c'est-à-dire qu'il faudra sûrement une alliance, une cohésion mondiale pour se relancer. La grande différence avec la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que là, j'ai envie de dire, on a déjà esquissé un semi-plan Marshall, puisque les économies partout autour de la planète tentent de repartir. Ce qui est très similaire à une sortie de guerre, c'est qu'il va bien falloir reconsommer en sortie, c'est-à-dire qu'il va bien falloir avoir, on va avoir envie de retourner au restaurant, on va avoir envie d'acheter ce qu'on n'a pas pu acheter. Alors même si on va avoir une petite impression pour ceux notamment qui auront été au chômage partiel de perte du pouvoir d'achat, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les premiers chiffres qu'on a montrent que les Français ont semble-t-il tendance un petit peu à épargner pendant cette période. Donc logiquement, ça devrait permettre de repartir. Mais le problème va être la durée de cette crise. Et là, ce que comptait très bien Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, c'est une calamité ce qui est en train de se passer là-bas. Et si le premier moteur mondial en termes d'économie s'arrête plus longtemps que ce qu'on avait prévu, nous, est-ce qu'on va être capable de tenir à bout de bras nos entreprises pendant 3, 4, 5, 6 mois? Vous imaginez si le pic est fin avril aux États-Unis, mais ça veut dire qu'on y est encore nous pendant des semaines derrière. Et c'est ça qui va être très compliqué. C'est-à-dire que personne n'est aujourd'hui capable de dire quel sera le tissu économique, quelle sera la réalité de la force du tissu économique à la sortie de cette crise.
Bien sûr. Alors on va justement aller aux États-Unis rejoindre Xavier Yvon. Évidemment, Xavier, quand on entend la situation en France et Emmanuel Dutheil et qu'on voit ce qui se passe sur le plan sanitaire déjà chez vous, on se dit qu'il y a de quoi paniquer sur le plan économique aux États-Unis. C'est vraiment de cela dont on parle, de panique.
Oui, le mot panique n'est pas trop fort. D'ailleurs, on s'en est rendu compte la semaine dernière quand les Américains ont commencé à lancer le débat sur, en gros, faut-il sauver l'économie ou faut-il sacrifier l'économie ou faut-il sacrifier les personnes âgées. Il y a des responsables américains âgés, plus de 70 ans, qui ont dit à la télé en direct, moi je suis prêt à mourir pour que l'économie américaine continue à marcher pour mes enfants et mes petits-enfants. Donc c'est vraiment la panique. Et on voit dans les chiffres là et dans les images, elles sont extraordinairement frappantes. Donc la courbe du chômage aux États-Unis là, a explosé comme jamais, à mettre en parallèle avec le nombre de cas de coronavirus.
C'est quoi ici, ça donne un taux de chômage partiel. Ben oui, ça donne quoi aujourd'hui? Ça donne un taux de chômage autour de 15%.
Alors on n'a pas encore les derniers chiffres.
D'accord.
On n'a pas encore les derniers chiffres, mais il y a des projections qui parlent de 20%. Avant, on était à moins de 3%. Hein. On était en plein emploi aux États-Unis. Mais ça, ici, il n'y a pas de chômage partiel. On vire les gens du jour au lendemain. Et il y a énormément d'Américains qui vivent ce qu'on appelle ici paycheck by paycheck. Ils ont un chèque de salaire semaine après semaine. Donc, chaque semaine, le chèque permet de vivre la semaine suivante, etc. Quand le chèque n'arrive plus, on ne vit plus. Vous avez des files d'attente aux distributions alimentaires un peu partout dans le pays qui sont extrêmement impressionnantes. Les files d'attente de voitures à l'américaine. Il y a des images de drones, par exemple, en Pennsylvanie, on voit une autoroute avec des files et des files de voitures. C'est des gens qui attendent pour aller chercher à manger dans des distributions alimentaires. Souvent, c'est des gens qui n'avaient jamais appelé à l'aide comme ça, mais qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans revenus. Il y a la moitié des Américains qui n'ont pas d'épargne, donc qui vivent... comme je vous disais, la semaine après semaine. Donc c'est en train de créer une catastrophe économique dans tout le pays. On est le 1er avril aujourd'hui, c'est le jour où on paye le loyer. Eh bien, on estime que 40% des New-Yorkais pourraient ne pas pouvoir payer leur loyer. Vous vous rendez compte, 40% des New-Yorkais qui pourraient ne pas payer leur loyer aujourd'hui. Et donc, on est en train d'assister à un effondrement de l'économie américaine. Et d'ailleurs, les responsables à la Maison-Blanche en premier en sont particulièrement conscients. Et en ce moment, à la Maison-Blanche et au Congrès, on discute d'un nouveau plan d'aide. Il y a eu ce plan d'aide de 2000 milliards de dollars qui a été voté la semaine dernière. Là, on parle d'un plan d'infrastructure pour créer des emplois, un peu comme une sortie de guerre, hein, comme en parlait Emmanuel Duteil. C'est on va mettre des gens au travail en créant un plan d'infrastructure.
Xavier Yvon, gardez-moi quelques infos parce que j'aimerais bien que vous me fassiez une petite photo là, en fin de grande voix, de ce que vous avez à vos fenêtres, de ce que vous voyez au quotidien, de ce que vous vivez au quotidien. On vous a pas tous les soirs, on est ravis de vous avoir là depuis New York. Et j'aimerais bien que vous me racontiez un tout petit peu ce que vous voyez, ce à quoi vous assistez quotidiennement. Michaël Darmon, je reviens vers vous. D'un mot, on a beaucoup parlé de souverainisme hier, de ce patriotisme économique, de ce Made in France de retour, en tout cas de cette volonté d'Emmanuel Macron, avec là, aujourd'hui, la conversion des libéraux au patriotisme économique qui peut paraître raisonnable.
Mais écoutez, ça fait encore partie des choses extraordinaires au sens littéral du terme que l'on vit. Depuis tout à l'heure, j'écoute ce qu'a dit Emmanuel Duteil, ce que nous explique Xavier Yvon. Et nous aussi, au fond, depuis le début de cette crise, on puise dans le stock stratégique de tous les superlatifs, de tous les mots pour pouvoir décrire l'aspect incroyable, sidérant, effrayant de ce que l'on vit. Et ce que disait tout à l'heure Alain, l'auditeur des Yvelines, était vraiment très juste. C'est-à-dire que le vrai modèle de comparaison, ce sont ces deux grandes guerres. Parce que, au fond, c'est la première fois depuis, au fond, de notre vie, hein, que l'on voit des responsables politiques qui s'occupent de la vie et de la mort des gens. Au sens, je dirais, le plus urgent et le plus littéral du terme. C'est absolument nouveau. Et ça crée une situation totalement inédite, comme, effectivement, vous le disiez, eh bien, voir des mondialistes convaincus, tels Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron, bien sûr, le premier d'entre eux, qui sont toujours des chantres de la globalisation, tout d'un coup dire, eh bien, patriotisme économique, on revient à la production nationale. Évidemment, il faudra que ça dépasse simplement le discours politique. On l'avait déjà évoqué hier. Mais le simple fait de voir ces personnalités-là, avec leur parcours politique, leurs convictions personnelles, arriver à ce type de discours, montre bien l'ampleur de ce que l'on est en train de vivre et la révolution que l'on est en train de vivre sous nos yeux.
Ouais. Alors, on a Emmanuel Duteil, un autre chiffre. Michel, un auditeur qui nous appelle ce soir. Bonsoir Michel, au 3921.
Bonsoir à vous. Moi, je voulais juste poser la question en disant, sans TVA sociale au niveau de l'Europe, sans surcoût des transports pour le monde, est-ce que les produits peuvent vraiment revenir en France et en Europe? C'est l'industrie, elle a mis 40 ans à partir, elle mettra 40 ans à revenir, c'est très difficile.
Alors Emmanuel Duteil, c'est vrai qu'on s'est posé déjà cette question hier soir. C'est vrai que ce sera dans la pratique très compliqué.
Je pense que cet auditeur a totalement raison. Alors je ne sais pas quelle serait la bonne solution, mais à partir du moment où on a habitué les gens et tout ce que nous en sommes à avoir des t-shirts à 2 euros dans des enseignes que tout le monde peut connaître, tant qu'on s'est habitué à acheter des lecteurs DVD, des ordinateurs à des prix qui font qu'en France, on n'aurait même pas 3 touches pour ce prix-là, par définition, ça va être très compliqué de relocaliser ce qui a été renvoyé sur place. Après, ce que dit bien le président de la République, c'est retrouver notre souveraineté. À la rigueur qu'on n'ait pas d'ordinateur pendant quelques jours à vendre en France, ce serait pas un drame. Là, la question, et je pense que là-dessus, ils vont quand même réussir à avoir plus que des symboles sur les médicaments, sur des choses qui peuvent être aussi importantes que cela, sur, j'imagine, nos masques. J'imagine que là, on va avoir pendant des dizaines d'années des stocks de masques qui, bien évidemment, nous serviront peut-être pas beaucoup, mais au moins, on revivra plus cette crise. On sera équipé en respirateur, on sera équipé en tout cela. Mais notre auditeur, je crois que c'est Michel, à 1000% raison. Pour vraiment relocaliser, pour vraiment avoir du Made in France, il va vraiment falloir quelque chose de très ambitieux. Aujourd'hui, on voit bien que le Made in France, les gens sont très sensibles à cette idée, mais n'achètent pas pour autant beaucoup plus que cela, parce que bien souvent, le différentiel de coût pour un même produit est pour des bourses moyennes, bien évidemment, trop important.
Ouais. Merci Michel de votre appel. Voilà la réponse d'Emmanuel Duteil. Je voulais conclure avec vous, Xavier Yvon, ce soir. Il nous reste quelques minutes. Dites-moi un petit peu ce que vous voyez de vos fenêtres, ce qu'est votre quotidien aujourd'hui à New York, dont on sait qu'aux États-Unis, on n'est pas dans un confinement comme en France, hein, et on le répète chaque jour.
Oui, c'est vrai. Alors, ce que je vois, je vais vous dire ce que je vois de ma fenêtre du bureau européen à New York. Ça va vous faire sourire, mais c'est un écureuil. C'est un écureuil qui passe sa vie à s'accrocher à ma fenêtre.
Et c'est pas un 1er avril.
Pas du tout avant. Non, c'est pas un 1er avril, mais en fait, c'est juste, je pense qu'ils sont un peu tout seuls. D'habitude, ils n'étaient pas du tout là dans les jours normaux, ils se planquaient. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas le confinement comme chez vous, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde dans la rue. Et surtout, il y a quelque chose qui est très frappant à New York, c'est que vous savez, c'est une ville où il y a du bruit. Pour ceux qui y sont déjà allés, c'est souvent assez assourdissant. Bah, c'est une ville qui devient silencieuse. Ce qu'on entend énormément, c'est les sirènes des ambulances. Vous savez, les mêmes sirènes qu'on entend dans les séries américaines, ce bruit très particulier. Et le reste, le murmure, le bruit de la ville, on l'entend beaucoup moins. On entend par exemple beaucoup moins d'hélicoptères. Ici, il y a toujours des hélicoptères qui passent au-dessus de nous, de touristes ou d'hommes d'affaires qui circulent, etc. Là, il y en a beaucoup moins. Il y a aussi beaucoup moins d'avions dans le ciel. C'est une ville où normalement, on voit les avions qui font la queue là, pour aller dans l'un des trois aéroports de la ville. On les voit dans le ciel, on les entend. Là, on les en voit de moins en moins. Et puis voilà, il y a moins de monde dans la rue, il y a des files d'attente avec des écarts entre les gens et des gens masqués dans les supermarchés, je pense un peu comme chez vous. Et puis ce qui est frappant pour des New-Yorkais, c'est de voir les images qu'on a vues là cette semaine, c'est-à-dire un bateau militaire hôpital qui arrive dans la baie de New York avec sur fond de skyline avec la statue de la liberté et puis ces tentes blanches dressées, un hôpital de campagne comme à la guerre, sauf que c'est dans Central Park.
Eh oui, c'est ça, cette image, elle est déroutante. Merci beaucoup pour cette photo. On espère d'autres, évidemment plus heureuses avec vous, Xavier Yvon. On va vous retrouver régulièrement, j'espère, au micro d'Europe 1 à cette heure-ci, dans les grandes voix, avec Emmanuel Duteil, Mickaël Darmon, Ève Roger, qui nous a fait défaut ce soir, mais qu'on va retrouver très vite, et le docteur Jimmy Mohamed, donc, qui nous a éclairé sur ce déconfinement qui sera progressif, certainement régional aussi, disait Édouard Philippe tout à l'heure. On va y revenir dans le journal de 19h. Merci les grandes voix, merci à vous.
Merci Nathalie, à demain.